Bien, merci. Je vous remercie de votre présence ce soir, qui pour nous est un soutien aussi à quelque chose d'important, la tradition humaniste du français, du latin et du grec, qu'on appelle les lettres classiques, hein, et dont je suis professionnellement un avatar, hein, genre, bon, m'inscrivant dans une lignée et ayant déjà moi-même aussi, depuis plusieurs années, formé des gens qui prendront le relais ensuite d'une tradition, hein, qui remonte, qui est plurimillénaire, hein, et qui associe donc dans un même espace de culture trois langues qui, quelque part, donc, sont très profondément reliées. Alors, je voudrais d'abord corriger un petit peu le portrait élogieux que mon distingué collègue a fait de moi, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout chercheur. Je n'ai pas de doctorat, et quelque chose de vide dans mon CV. Bon, ce sont les circonstances de la vie qui ont fait que, et puis sans doute aussi ma tournure d'esprit, hein, qui ont fait que je n'ai pas eu vraiment de vocation pour la recherche, et que, du coup, la langue grecque, par exemple, n'a jamais été pour moi un objet de recherche en tant que tel. La langue grecque, c'est quelque chose avec lequel je vis quotidiennement, au moins depuis que je suis professeur en Cagne, mais j'avais déjà fait quelques petites timides travaux, hein, lorsque j'étais normalien. La langue grecque, ce serait plutôt pour moi ce que j'appellerais un biotope, c'est-à-dire c'est quelque chose dans lequel, exactement comme la langue française est ma langue maternelle, la langue grecque est ma langue culturelle, c'est la langue dans laquelle, ce milieu un petit peu dans lequel donc j'inscris mes activités étant d'abord la pratique des textes, qu'il s'agisse des textes français ou des textes grecs, hein, textes littéraires, encore que la notion de littérature dans la Grèce ancienne soit une notion problématique déjà, hein. Mais justement, enfin, mon travail, je pense que le sens aussi de la formation que j'essaie de dispenser, c'est aussi de réfléchir justement sur ces catégories. Hein. Mais encore une fois, ce sont les textes qui sont notre visée, hein, lorsque nous travaillons en classe. Hein. La langue, pour nous, n'est qu'un moyen. Hein. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que nous ne soyons pas très attentifs aux détails de la langue, hein, à la fois bon, dans l'enseignement que nous en donnons, et on ne peut pas faire du grec sans justement une extrême rigueur, on le verra tout à l'heure, sur des petits détails. Hein. Mais en même temps aussi, en tant que littéraire, nous devons évidemment d'être très attentifs aux détails de l'écriture, qui sont toujours évidemment des détails de la langue. Hein. Tout ça nous renvoie donc constamment à la langue, mais il y a toujours un au-delà de la langue. Hein, cet au-delà donc qui est le texte, hein, qui est ce que la langue a produit, qui est la forme littéraire dans laquelle le texte s'inscrit, littéraire avec tous les guillemets qu'il convient d'employer, évidemment, et puis, évidemment, tout ce que les textes transportent d'expérience humaine, hein, ce qu'on appelle en gros la civilisation, hein, la façon dont telle civilisation a vu tel aspect de la vie, hein, d'accord, a eu tel rapport avec telle ou telle question fondamentale qui se pose donc à la vie humaine. Bon. Et donc la maîtrise de la langue doit nous permettre pour nous d'accéder donc à la culture de façon authentique, de façon non médiatisée, c'est-à-dire dans la pratique de la langue elle-même et non pas dans les traductions. Voilà, c'est un petit peu cet objectif, donc c'est pour ça que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui a étudié la langue grecque, je suis quelqu'un qui la pratique, quelqu'un qui l'enseigne, qui essaie de ruser comme tout pédagogue pour que cet enseignement soit le plus efficace avec les contraintes que nous avons, qui sont aussi des contraintes de temps. Nous avons des élèves qui débutent le grec souvent après le baccalauréat, hein, et qui pourtant 18 mois plus tard devront passer le concours de l'école normale supérieure, qui n'a pas beaucoup évolué, hein, de ce point de vue-là, qui est toujours aussi exigeant. Hein, voilà. Donc c'est un véritable défi, hein, alors, mais que je relève avec beaucoup de plaisir. Hein, alors, et je vois que les étudiants aussi s'impliquent régulièrement d'une année sur l'autre. Autrement dit, ce qui va un petit peu essayer d'être le fil rouge donc de ma communication, ce n'est pas évidemment d'étaler l'érudition que je n'ai pas, hein, ou que j'aurais pu emprunter le temps d'une conférence, hein, mais ce sera plutôt de vous parler un petit peu de cette série de rencontres fortuites, plus ou moins éclairante qu'il m'est donné de faire. En tant qu'usager, usager de la langue française et usager de la langue grecque, hein, ce sont des rencontres souvent très furtives, qu'on oublie souvent ensuite, hein, qui nous échappent, mais qui nous ont pourtant inscrit quelque chose en nous. Hein. J'ai souvenir, par exemple, là, d'avoir travaillé sur un texte en interrogation orale, une colle, là, avec un étudiant qui est présent ici, et il séchait sur un mot de vocabulaire grec, puisqu'ils passent leur colle normalement sans dictionnaire, hein, bon, donc voilà, ils ne savaient pas tel mot de vocabulaire, et tel mot de vocabulaire, voilà, immédiatement, j'ai fait le rapprochement avec un mot français, j'ai recherché ce mot ensuite, et je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne sais plus quel est le mot que nous avons rencontré avec Ludovic, puisque c'est Ludovic, à un moment, et sur lequel le rapprochement avec le français m'a paru totalement éclairant. C'est-à-dire, pas simplement de le traduire, le mot, hein, pas simplement de lui donner la traduction, mais il s'agissait de lui montrer la trace que le mot avait laissée en français, qui pouvait être très loin, d'ailleurs, parfois, je ne me souviens plus, de la traduction qui était correcte, hein, d'accord, qui aurait été donnée par le dictionnaire grec. Voilà. Donc c'est un petit peu à ça, d'accord, c'est un petit peu ça que je voulais vous faire partager, hein, cette expérience d'une profondeur de la langue, hein, la langue dont nous sommes des usagers, nous restons souvent en surface, et qui, par moments comme ça, par le biais de la sensibilité à la présence du grec, mais il peut y avoir évidemment bien d'autres moyens. Hein, mais le grec, me semble-t-il, est une des façons, hein, d'accord, d'entrer de temps en temps dans cet espace, hein, que constitue la langue, et me semble-t-il aussi de faire sentir que cette présence souterraine du grec apporte au français des caractéristiques tout à fait particulières. Hein, voilà. Alors, il sera beaucoup question dans cette communication, forcément, de lexique, de vocabulaire, bref, de mots, hein, beaucoup plus que de structure de langue, hein, c'est une des données, nous ne sommes pas, hein, une langue grecque, hein, pas linguistiquement, nous sommes latin, hein, fondamentalement, hein, et donc, nous aurons besoin d'éroger là-dessus, sur ce caractère relativement lointain, hein, du grec, hein, qui n'est pas notre langue, hein, mais qui pourtant est une des composantes un peu particulières de notre langue. Donc on commencera à aborder d'abord le français, le grec, mais évidemment en passant automatiquement par le troisième terme, parce que c'est du billard à trois bandes, c'est-à-dire donc le latin, hein, qu'on ne peut pas, évidemment, donc éliminer de cette problématique. Nous sommes donc une langue latine, hein, le grec n'intervient pour nous, hein, que comme un élément tout à fait isolé, hein, d'ailleurs linguistiquement. L'histoire du grec est tout à fait particulière, hein, c'est sans doute la seule langue occidentale qui n'est pas connue de rupture fondamentale depuis que l'est attestée. C'est-à-dire, en gros, depuis les années 1500 avant Jésus-Christ, à peu près, hein, puisque les tablettes mycéniennes ont révélé qu'à partir de ce moment-là, les gens qui s'étaient installés dans les palais crétois n'étaient plus des crétois, hein, mais que du moins les maîtres étaient devenus, c'était des envahisseurs indo-européens venus du nord, et qu'ils faisaient consigner avec ce linéaire très compliqué qu'ils n'avaient pas du tout inventé, qu'ils avaient récupéré aux Crétois qui habitaient là avant eux, aux civilisations égéennes qui les avaient précédés, ils faisaient consigner leur propre langue, hein, sur ces tablettes-là. Depuis, donc, en gros, le deuxième millénaire donc avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, il y a une continuité de la langue grecque, hein, ce qui fait que les Grecs, aujourd'hui, n'ont pas vraiment l'impression, quand ils lisent ou entendent du Sophocle, que c'est une autre langue que la leur. C'est une expérience assez extraordinaire. Par contre, il y a le revers de la médaille, c'est que là où le latin a certes disparu en tant que langue vivante, mais a produit en disparaissant, hein, comme ces arbres fruitiers, vous savez, qui sentent qu'ils vont mourir, qui produisent la dernière année une récolte absolument extraordinaire, le latin a produit comme ça une floraison de langues romanes, hein, d'accord, dont le français, non, le grec, lui, n'a rien produit. Et le grec est resté, hein, un rameau isolé de le grand arbre linguistique indo-européen, hein, dans lequel nous nous inscrivons. Hein. Ce qui fait que le grec, qui était langue minoritaire dans l'Antiquité, je crois que ça, il faudra y revenir, est évidemment aujourd'hui une langue aussi ultra minoritaire, hein, d'accord, et que bon, l'Europe fait beaucoup d'efforts et de dépenses pour inscrire sur les briques de lait, par exemple, la composition, d'accord, aussi en grec, hein, d'accord, voilà. Mais c'est un effort volontariste, mais en cela, on continue, d'un certain côté, bon, à entretenir des liens, des fils, hein, d'accord, avec un élément.